Ok, on va commencer. Juste pour être sûr que vous n'êtes pas trompé de lieu ou de salle, on va parler de féminisme et de capitalisme, des liens entre les deux. Ça va ? Il n'y a pas de perdu dans la salle ? Très bien. Donc on va essayer de rendre ce débat un petit peu participatif. C'est toujours compliqué, mais quand même. Donc n'hésitez pas à intervenir. Nous, on serait très contents que ce soit le cas. Et alors, pour rendre aussi ce débat participatif de manière plus spontanée, on va utiliser deux gestes des indignés. Est-ce que vous connaissez les gestes des indignés ? Ouais. Il me semble qu'il y en a pas mal, en tout cas, qui connaissent. Je vous montre. Donc, quand vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Hein. C'est si vous sentez l'envie de communiquer un sentiment d'accord ou de désaccord. Donc, si vous voulez communiquer votre accord avec quelque chose qui se serait, par exemple, dit, voilà, vous faites ça, ou avec les deux mains, c'est pareil, ça. Voilà. Il paraît que ça vient des langages des sourds. Et alors, si vous êtes en désaccord fort et que vous voulez le mentionner pour une raison ou pour une autre, il faut faire ça. Voilà. Ça peut être intéressant de voir un peu où se situent les gens, la salle. Enfin voilà, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui est dit ? Voilà, ça c'est pour les règles du jeu. Et alors Thomas va juste introduire la raison pour laquelle nous on anime ce débat.
Oui, parce que c'est le musée du capitalisme qui a pris en charge ce débat. Est-ce que vous avez déjà visité le musée ? Ouais. Alors ceux qui n'ont pas visité le musée, on vous invite vivement à aller voir le stand du musée du capitalisme au village des Possibles. Ça fait 5-6 ans qu'on vient chaque année à Esperanza. Et cette année, on a donc un stand qui a suivi un projet Bike Beat. Vous en saurez plus, mais c'est un parcours en vélo sur les alternatives au capitalisme dans la région de Namur. On a fait ça avec la Maison des Jeunes Saint-Servais de Namur. On anime le ciné-club. Et depuis l'année dernière, on s'est mis dans la dynamique de l'espace débat. Et cette année, donc, le thème du festival, c'est le déclin de l'Empire du Mal. Et on se disait avec le musée que c'était intéressant de l'interroger sous l'angle capitalisme et féminisme. Et la définition du musée, on s'est dit, du capitalisme, pour un peu savoir de quel mot on parle, parce que le capitalisme, c'est un mot qu'on utilise tout le temps, mais on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. On va se lancer dans une petite définition co-construite. Donc, n'hésitez pas à nous dire, à lancer des mots, ou si quelqu'un a déjà la définition toute faite, on gagne même du temps. Voilà. Le capitalisme, à quoi ça vous fait penser ? Oui ? Oui, la notion d'accumulation de capital, tout à fait, la notion d'accumulation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le capitalisme ? Il y a quoi ? La propriété privée des moyens de production. Tout à fait, on a déjà dit beaucoup sur la définition. Il y a encore quelques éléments. Il y a la question de l'exploitation. Le libre marché, oui, aussi. Oui. Ce n'est pas dans la définition même, c'est un aspect du capitalisme. Non ? Ah, merci. Oui. La création de richesse, elle se met à travers l'accumulation des profits, oui. Oui. Pardon ? Le profit, l'accumulation de profit, oui. La production de masse. Il y a l'idée donc dans la production de masse, c'est l'accumulation sans fin. Ça ne s'arrête jamais. La croissance. La croissance, donc dans cette idée de toujours. Mais il y a, oui. Le système global, oui. Donc c'est vrai que le capitalisme, ce n'est pas une philosophie politique, c'est vraiment un axe central, c'est un système et qui est aujourd'hui le système dominant. Il y a d'autres systèmes possibles, mais étonnamment, c'est le seul système qui existe dans nos sociétés, en tout cas occidentales. Et l'appropriation, voilà. Donc en fait, on a tous les mots, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est le capitalisme. Donc c'est un système. Alors, on s'est basé sur plusieurs penseurs. Hein. C'est un système qui se caractérise par l'exigence
d'accumulation de profits. Ça, ça a été cité. Et à travers la propriété privée. Et alors justement, avec l'équipe du musée, on a souhaité s'arrêter là, alors que beaucoup de définitions continuent en mettant la propriété privée des moyens de production. Mais nous, on estime que ça ne se limite pas simplement aux moyens de production, mais ça peut aussi s'étendre à la propriété privée du vivant. Ou la propriété privée de la nature, et donc ça ne doit pas se limiter à la question des moyens de production. Donc ça, c'est notre définition du capitalisme. Et l'autre mot du jour, c'est le féminisme. C'est aussi un mot qu'on utilise de plus en plus. Et donc, qu'est-ce que ça recoupe pour vous, le féminisme ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, tu notes les... Ouais. Ça, c'est Delphine qui note, c'est la spécialiste. Donc, il y a les mots qui ont été dits, c'est égalité, patriarcat, domination, droit, oui. Et si on peut faire des associations d'idées, le droit des femmes. Le féminisme est anticapitaliste, c'est, d'accord ? Ok. La lutte. Libéralisation. Ok. Encore une ou deux. Oui.
Pardon.
L'équité. Donc on peut mettre avec égalité, même si c'est pas exactement la même chose. Antiracisme. Autodétermination. Intersectionnalité. Donc il y a encore autodétermination et stéréotypes. Alors vous voyez, ici en fait, on ne propose pas une définition toute faite du féminisme, parce qu'il n'y en a pas encore autodétermination. Autonomie. Et autonomie, voilà. On va arrêter sur les propositions. Et toi Delphine, tu disais quand même que si on voulait avoir une définition, ce serait laquelle ?
Oula. C'est une lutte qui a pour objet les femmes, mais c'est quelque chose que j'ai lu il y a très longtemps, mais qui avait pour but justement de ne pas dire c'est une lutte qui doit forcément libérer les femmes, parce que certaines femmes vont dire qu'elles ne veulent pas être libérées, mais aimeraient qu'on parle d'elles autrement, par exemple, et que donc la manière la plus générale de parler du féminisme serait peut-être de dire que c'est une lutte qui a pour objet, les femmes. Voilà, mais le but aussi, c'est évidemment de faire parler les intervenantes sur ces sujets-là. Je vais reprendre mon micro. Voilà, on ne leur a pas encore donné la parole, mais comme vous le voyez, il y a 3 personnes avec nous. Donc, il y a Irène Kofer, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est syndicaliste, féministe, blogueuse, qui a par ailleurs aussi écrit un livre et qui est parmi nous. Tu peux peut-être présenter...
Puis Valérie Piette, qui est universitaire, prof à l'ULB, et spécialisée sur l'histoire du féminisme. Et Viviane Jallère, qui est de la gauche anticapitaliste, qui est en fait un mouvement issu de du NPA, le nouveau parti anticapitaliste en France, et qui aujourd'hui est un mouvement, tu vas mieux le dire que moi, on peut commencer justement alors avec toi, comme ça tu pourras préciser.
Voilà. Donc ce qu'on voulait demander aux intervenantes, c'était ce qu'elles pensaient de la définition du capitalisme qu'on a pu faire, des mots qu'on a associés ici au féminisme, et pourquoi elles, en tant que personnes, dans leur parcours vraiment de vie, elles en ont été amenées à associer éventuellement l'anticapitalisme et le féminisme ou d'autres choses. Pourquoi elles sont là aujourd'hui pour venir témoigner aussi de cette question-là. Voilà, je vais leur céder la parole.
Ok, donc bonjour à tous et à toutes. Alors, pour commencer avec gauche anticapitaliste, en fait, ce n'est pas issu vraiment du NPA en France. En gros, c'est plutôt une organisation politique qui est issue de la Ligue communiste révolutionnaire. donc ça c'était l'ancien nom, et qui a changé il y a un an. Et comme vous pouvez vous en douter, communiste révolutionnaire à l'heure actuelle, ça fait un petit peu peur à pas mal de gens. Et donc on a décidé de changer en fait de statut, ne plus être un parti déjà, et ensuite de prendre un nom qui reflète un peu plus nos idées au quotidien et nos actions, c'est-à-dire une lutte anticapitaliste de fond. Et ça c'est à peu près pour la gauche anticapitaliste. Alors, par rapport aux définitions du capitalisme et du féminisme, en gros, pour la définition du capitalisme, on est plutôt d'accord en fait avec cette définition, il n'y a pas de problème avec ça. Nous, on rajouterait plutôt qu'il y a aussi la question d'exploitation des travailleuses et des travailleurs, qui est quand même un élément extrêmement important pour comprendre un petit peu les mécanismes d'oppression du capitalisme. Et ensuite, pour le féminisme en soi, la définition que je mettrais particulièrement, ce serait surtout que c'est une lutte contre l'oppression sexiste, de manière générale. Et puis après, dans une vision intersectionnelle, et là, ça fait plaisir d'avoir vu ce mot-là intervenir, c'est-à-dire de ne pas simplement se limiter à la lutte pour les femmes de manière générale, sans vraiment mettre de clés aussi, d'autres grilles de lecture en fait derrière, mais aussi de voir toutes les formes d'oppression qui s'appliquent aux femmes et les différentes manières de les vivre, etc. Donc voilà à peu près. Alors, d'un point de vue personnel, en fait, ce qui m'a amené à la lutte féministe et à la lutte anticapitaliste, d'abord, ça a été un constat assez jeune qu'il y avait pas mal d'inégalités, pas mal de choses qu'on attendait de moi qui n'étaient pas forcément attendues de l'autre genre. Et clairement, j'ai toujours trouvé ça profondément injuste. C'était vraiment un constat plutôt personnel et à mon petit niveau comme ça, de se dire, c'est pas juste, pourquoi il y a des gens qui peuvent se permettre des choses que moi je peux pas me permettre de faire? Qu'est-ce qui fait que moi je suis pas considérée comme une personne à part entière de la même manière qu'un homme va être considéré de cette manière? Et donc à partir de cette une sorte d'indignation personnelle, j'ai commencé à me poser aussi des questions plus en termes de qu'est-ce que je pouvais faire au quotidien pour essayer de sortir en fait de ce genre de système qui clairement n'est pas égalitaire. Et donc la question est venue de passer vraiment à un niveau de lutte féministe et de ne pas rester se contenter en fait d'un constat assez déprimant finalement, de dire je suis dans un système patriarcal et c'est comme ça et puis c'est tout. Donc quant à l'anticapitalisme, c'est à peu près le même constat mais sur les inégalités sociales, tout simplement. Et donc là aussi il y a un petit peu d'histoire personnelle derrière, puisque j'ai toujours vu mon père un peu galérer, que ce soit au chômage ou avec les allocations, etc. Et donc il y a toujours eu un profond dégoût d'un système qui permet à des gens de vivre si mal, de faire un seul repas par jour parce qu'on n'a pas assez de sous pour subvenir à ses propres besoins à la fin du mois. Et donc ce type d'indignation s'est aussi transformé en volonté de lutte au quotidien.
Je commence, je me présente. Alors bonjour à tous et toutes, Valérie Piette. Je commence par l'aspect personnel peut-être et je viendrai aux définitions par la suite. Alors, je fais quelque chose de très difficile, puisque les historiens prennent toujours beaucoup de recul et ne disent jamais le « je ». Alors, maintenant, je vais faire du « je » et de l'égo-histoire, quasi. Donc, moi, je viens d'une famille relativement engagée. Quand j'étais gamine, on fêtait la mort de Franco à la maison. C'était l'antifascisme, c'était l'anticapitalisme, c'était les années 70, toute mon enfance. Donc voilà, ça me paraissait moi évident, une évidence, ce combat-là aussi, tout comme le combat féministe, néo-féministe à l'époque, il était tout à fait évident. Et c'était tous les combats aussi pour le droit à l'avortement, les manifestations. Gamine, j'allais manifester contre la guerre au Vietnam et j'allais manifester avec les néo-féministes. Donc ça me paraissait évident. Et puis, je ne vais pas vous faire toute ma vie, parce qu'on ne va pas faire pleurer non plus tout le monde, mais dans mon adolescence, j'ai rencontré le militantisme, cette fois-ci, actif au sein d'un syndicat étudiant. Il y a très longtemps, j'ai créé la première section avec d'autres du syndicat étudiant LGTB à Bruxelles, qui était très proche, où il y avait beaucoup de jeunes trotskistes à l'époque dans ce syndicat. On avait de grandes discussions toutes les nuits autour de plein de verres. C'était pas des mojitos à l'époque, mais c'était bien d'autres choses. Et on a beaucoup discuté du communisme, du trotskisme, du socialisme révolutionnaire, de plein de choses. Et là, il y a eu à ce moment donné-là quelquefois une contradiction entre ce que moi je pensais comme féministe et ce que j'entendais quelquefois. C'était les débats à l'époque sur la parité et puis sur les quotas. Et j'entendais dire, vous savez, là, les femmes, on n'est pas une... une espèce en voie d'extinction, on n'a pas besoin de ça. Et le jour où le socialisme et le communisme arrivera sur Terre, ben, de toute façon, les femmes seront les égales des hommes, etc. Et c'est des choses que j'entends encore dans une certaine rhétorique révolutionnaire. Et je n'étais pas vraiment d'accord avec ça. Voilà. Ça a été une première conscience extrêmement féministe, en me disant qu'il fallait aussi être féministe, j'allais dire quasi sur le côté, enfin, c'était quelque chose d'important. Et puis j'ai commencé des études d'histoire, et là très vite j'ai décidé de toucher à l'histoire des femmes, ce qui n'était pas simple à l'époque, du tout. C'était quasi en gros mots, faire l'histoire des femmes déjà. Donc c'était de visibiliser les femmes dans l'histoire, montrer que les femmes n'étaient pas des anonymes dans l'histoire, mais avaient leur histoire. J'ai fait une thèse de doctorat après mes études d'histoire qui a touché sur le travail domestique, donc sur la domesticité, sur les servantes au 19e siècle essentiellement. Et donc j'ai touché véritablement l'histoire du travail, du capitalisme, du travail non productif, comme on l'appelait, et donc évidemment l'histoire des travailleuses au 19e siècle. Et puis le hasard des choses a fait que je suis resté à l'université et mon combat aujourd'hui c'est plutôt dans la transmission, c'est-à-dire que j'enseigne relativement beaucoup. J'ai mis avec d'autres sur pied un master genre interuniversitaire et j'enseigne pour qu'on puisse avoir que les femmes aient une histoire, mais aussi que les communautés LGBT aient une histoire, puisque je travaille aussi aujourd'hui sur l'histoire des sexualités. Voilà, donc pour les définitions, moi je suis un peu d'accord avec tout ça, on y reviendra sans doute. Je crois que le féminisme, d'abord il faut dire les féminismes, les féminismes sont extrêmement variés et différents dans leur histoire aussi. Et j'aime beaucoup moi la définition de Despentes, là je reviens déjà avec les mots d'autres, je redeviens historienne, et que Virginie Despentes dit que c'est un choix, c'est une aventure collective, et que c'est aussi une manière de pouvoir tout foutre en l'air, le féminisme, parce que je crois que le féminisme est révolutionnaire et que l'anticapitalisme sera féministe ou ne sera pas. Voilà.
Ben oui, voilà. Je croyais que... Enfin, j'espérais ne pas être d'accord avec Valérie, sauf sur les mojitos, bien sûr, mais malheureusement, bon, je dois constater que bon, on est d'accord sur beaucoup de choses. Mais bon, mon parcours est un peu différent, hein, donc je vais peut-être aussi commencer par mon parcours. Moi, j'ai l'âge d'avoir été à l'université, pas en 68, mais en 69. Hein, et comme en Belgique, c'est toujours avec un an de retard. Le mai 68, mon mai 68 à l'ULB, ça a été en septembre-octobre 69. Donc je suis arrivée pleine d'envie de faire plein de choses, de changer le monde, enfin, comme on est à cet âge-là, quoi. Hein. Et justement, ça tombait bien, puisqu'on était en train de changer le monde. Et je me suis très, très vite rendu compte que tout le monde ne le changeait pas de la même façon, disons, et que, par exemple, dans les assemblées dites libres, où tout le monde avait la liberté de parole, comme disait Orwell, certains étaient plus égaux que d'autres. Et que quand une femme allait à la tribune et disait quelque chose qui déplaisait à des hommes, c'était des trucs du style « retourne à tes casseroles ». Ce que je trouvais très injuste parce que j'ai toujours été nulle en cuisine, donc me renvoyer à des casseroles, j'aurais préféré qu'on me dise « retourne jouer au foot », par exemple. Bon, on me disait pas ça. Mais donc, je me suis rendu compte très vite qu'il y avait une inégalité, que dans ce mouvement, qui était un mouvement révolutionnaire, égalitaire, qui voulait tout changer, il y avait une chose qui ne changeait pas, qui était le rapport entre les hommes et les femmes. Ce qui m'a fait réfléchir et ce qui m'a fait, durant tout mon parcours universitaire, être à la fois dans le mouvement étudiant qui a quand même continué au-delà de 68, mais qui m'a fait aussi rejoindre très tôt, donc au début des années 70, le mouvement féministe naissant en Belgique. Et je me fais un plaisir de le dire chaque fois. Donc celles qui m'ont déjà entendu, elles vont dire « ouais, elle revient encore avec ça », mais c'est qu'en 72... il y a eu la première journée internationale des femmes le 11 novembre et que j'ai presque touché Simone de Beauvoir. Ça, c'est quand même extraordinaire, quoi. Voilà, tout le monde n'a pas cette chance d'avoir cet âge-là, mais voilà. Mais donc, il y a vraiment eu un début de ce mouvement. Donc, ce 11 novembre 72, ça a été vraiment quelque chose d'important, pas seulement parce que Simone de Beauvoir était là, ni parce que moi j'étais là, mais parce qu'on attendait quelques centaines de femmes et qu'après de 10 000 femmes qui sont venues. Donc ça a été vraiment un moment qu'on n'imagine pas aujourd'hui. C'est quelque chose qui reste dans mon souvenir comme un des grands moments du mouvement des femmes. Donc après, je me suis impliquée aussi dans les mouvements LGBT qui ne s'appelaient pas encore LGBT, dans le mouvement pour le droit à l'avortement, etc. Ça, c'est un côté de mon militantisme. L'autre côté, c'est que j'ai été pendant 25 ans déléguée syndicale dans une grande entreprise de commerce et que j'ai découvert en faisant ce travail-là, donc en ayant cette implication-là, qu'il y avait aussi là-dedans, dans mon travail syndical, il y a aussi des implications, alors je dirais à la fois des problèmes de sexisme et à la fois des problèmes de racisme, mais qui n'étaient pas dits comme ça. Par exemple, dans le commerce, il y a des catégories, enfin des barèmes qui sont apparemment tout à fait objectifs, donc avec un système de points, et il se fait qu'au miracle, ceux et celles qui ont le plus de points, ben, ce sont ceux et celles, en général, des boulots plutôt faits par des hommes. Et donc, là où il y a le moins de points, objectifs, toujours objectifs et scientifiques, c'est dans les boulots surtout occupés par des femmes, comme les caisses, ou bien surtout occupés par des jeunes d'origine immigrée, comme les magasiniers. Mais c'est tout à fait objectif, bien sûr. Et donc, on a mené un combat. Chez nous, on a été la seule entreprise en Belgique, et vraiment, c'est une grande fierté, même si ça n'a pas existé longtemps, c'est qu'on a obtenu un système où tout le monde évoluait de la même façon, qu'on soit vendeur, qu'on soit caissière, qu'on soit magasinier. Et c'était vraiment un système unique en Belgique qui a été, d'ailleurs, à un moment donné, remis en question, tout aussi scientifiquement. Voilà. Donc, j'ai toujours essayé de... Alors, c'est pas vraiment un combat anticapitaliste, et j'appelais pas ça non plus un combat antisexiste, et j'appelais pas ça forcément un combat antiraciste. Je crois aussi qu'on n'est pas obligé d'employer les mots, que l'important, c'est vraiment le contenu qu'on leur donne. Alors, sur les définitions... Je suis toujours restée militante, féministe, par ailleurs. Alors, sur les définitions qu'on donne, justement, donc tu disais que j'ai écrit un livre avec une philosophe féministe belge qui s'appelle Françoise Collin, enfin qui s'appelait, elle est décédée maintenant. Et j'aime beaucoup ce qu'elle disait. Alors il y a plein de féminismes, je suis d'accord avec Valérie, il y a des féminismes, on ne peut pas parler d'un féminisme. Il y a un féminisme libéral qui existe bel et bien et qui est très institutionnalisé et qui est celui qu'on voit maintenant le plus dans les médias, par exemple, qu'on interroge, sur un féminisme convenable, respectable, au niveau européen, par exemple. Et qui fait des avancées, hein. Je ne veux pas du tout le dénier, mais qui est quand même assez limité, et sûrement pas anticapitaliste. Mais Françoise Collin avait une formule que je trouvais assez belle. Elle disait, le féminisme, est-ce que c'est le devenir homme des femmes ou est-ce que c'est le devenir autre des femmes et des hommes ? Et pour moi, c'est clairement le deuxième. Parce que quand on parle d'égalité, moi, le mot égalité, je me méfie un peu, parce que c'est égalité à quoi ? Je veux dire, le fait qu'il y ait davantage de femmes, par exemple... dans les conseils d'administration des multinationales, c'est très bien pour ces femmes-là. Très bien. Mais par contre, ça ne change absolument pas la situation des femmes globalement. Et donc, ce sont deux combats qui peuvent se rejoindre sur certains points. Donc, encore une fois, je ne veux pas les opposer. Sur tout ce qui concerne les violences faites aux femmes, par exemple, ces féminismes-là peuvent travailler ensemble. Mais une fois qu'on travaille sur des questions socio-économiques, alors là, on se sépare et même parfois, on est complètement opposés.
Alors, on va vous demander maintenant à vous de prendre la parole et soit de poser déjà des questions précises à l'une ou l'autre intervenante, mais aussi par rapport à la thématique capitalisme et antiféminisme, si vous voulez déjà partager des réflexions, capitalisme et féminisme, anticapitalisme. Non, je me suis demandé justement pourquoi on disait anticapitalisme et pourquoi féminisme, c'était pas anti-masculinisme ou je sais pas quoi. Donc si vous voulez partager des réflexions et des questions, voilà déjà une. Et puis on va en prendre quelques-unes, il y a un micro sans fil, et puis on reviendra aux intervenantes.
Oui, merci. Je voulais juste demander aux intervenantes, j'ai bien entendu vos motivations à la fois militantes et intellectuelles sur les deux combats dont on parle, donc combattre le capitalisme et combattre le patriarcat à travers le féminisme. Mais je me demandais quel lien direct vous faisiez entre les deux et juste une petite réflexion. On part, hein. Je me demandais dans quelle mesure le fait qu'on dit souvent que le premier outil du patriarcat, c'est l'objectivation des femmes, notamment sexuelles, Donc le fait de réduire des femmes finalement à des marchandises qu'on consomme. Et je me demandais si là, il n'y avait pas une première, un premier lien peut-être à faire entre le capitalisme, qui est la consommation extrême, et le fait de réduire des femmes à des objets de consommation. Merci.
Une autre intervention, question ?
Pardon. Bonjour. Moi, j'ai aussi une question liée à l'image de la femme dans la culture. Comment ça se fait, d'après vous, que aussi peu d'autres images que l'image habituelle de la femme apparaissent dans la culture, aussi peu d'autres images que celle qui est la femme qu'on voit, celle qui est décrite brièvement par madame, objet de consommation ou autre, quoi. Alors que aujourd'hui, pourtant, les femmes ont accès à la culture.
Bonjour, moi c'est une information. En fait, hier j'ai lu dans le dernier numéro du Courrier International qu'il y a des élections locales aux États-Unis où il y a pas mal de gens féminines qui vont être au pouvoir, ce qui va rebalancer dans ce monde politique-là. Et il y a dans un autre pays en Asie où c'est le cas aussi. Donc voilà, c'est comme nouvelle positive.
Moi, je me demande, je n'ai pas eu le temps de réfléchir, mais j'aimerais bien le faire avec vous, tous les trois. Et c'est la question, c'est est-ce que la cause du capitalisme, de l'exploitation de la femme et du racisme n'aurait pas la même racine ?
Moi, j'aurais voulu savoir à partir de quel moment ça a merdé. Quand est-ce qu'on a décidé qu'être une femme, c'était une insulte ?
Alors, bien. Sur les épaules de Darwin, sur la question du corps des femmes. L'histoire des inégalités. Ok. C'est tout. Encore une, voilà. Et puis on va donner la parole. On pourra revenir vers vous si on a le temps.
Bonjour. Voilà, je voulais juste partager une petite anecdote. Hier, je me promenais dans un rayon, le rayon cosmétique, et je suis tombée sur un produit qui m'a donné vraiment la nausée, sur un déodorant pour sexe féminin, voilà, parce qu'évidemment le sexe des femmes est quelque chose de dégueulasse dont il faut masquer l'odeur. Et en regardant les ingrédients, on peut remarquer qu'il y a toute une série d'éléments de la pétrochimie, du parfum, etc. Voilà, ma question est de savoir dans quelle mesure la façon dont les femmes consomment pour se définir elles-mêmes en tant que femmes, notamment au niveau des cosmétiques, est un enjeu justement de la lutte anticapitaliste et pour la lutte féministe. Voilà.
Bonjour. Moi, je vais poser une question. Ça paraît peut-être un petit peu ridicule, mais je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensez sur ce s'il y a un bon féminisme ou un mauvais féminisme. C'est peut-être un peu ridicule, mais je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Merci. Moi, je voulais rajouter comme un autre ingrédient. Vous parlez de lutte aussi autour des questions LGBT. Et de plus en plus, on voit des éléments qui sont marketés, justement LGBT. Donc, on est aussi, au-delà du marketing rose ou genré, aussi sur, autour des identités de genre et aussi des sexualités supposées. Donc, voilà, si on peut rajouter ça dans le débat.
Voilà, ben, plein de choses ont déjà été abordées. Delphine les a un peu résumées. Est-ce que qui a envie de se lancer ? Irène.
Jamais peur du risque, mais je vais pas répondre à tout, hein, mais disons qu'il y a des choses qui me tiennent à cœur. Alors, si les autres ne répondent pas à d'autres questions auxquelles j'aurais pas répondu, on peut revenir dessus. Mais en tout cas, celles sur lesquelles je voudrais bien embrayer. C'est sur le bon et le mauvais féminisme, parce que je crois que c'est un peu une réaction à ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je répondrais, le bon féminisme, c'est le mien, mais bon, c'est un peu facile. Non, je crois qu'il y a des féminismes différents. Je ne dirais pas qu'il y en a un bon et un mauvais. Il y a les féminismes dans lesquels on se reconnaît et ceux dans lesquels on ne se reconnaît pas. Et puis, il y a ceux qui sont des alliés dans les autres combats qu'on mène et ceux qui ne le sont pas. Je veux dire qu'actuellement, il faut bien constater qu'il y a un certain féminisme qui est instrumentalisé pour justifier... le racisme, enfin l'islamophobie, si on préfère qu'on le dise comme ça, mais le racisme en général, et qu'on a bien vu quand il y a eu les événements, si vous vous souvenez, à la gare de Cologne, il y a 2 ans et demi, au réveillon, où des femmes ont été agressées sexuellement. Il y a plein de gens qui sont montés au créneau, qu'on n'avait jamais su qu'ils étaient aussi féministes que ça, mais tout à coup, ils se sont révélés féministes, hein, pour dénoncer le fait que, quand même, ces réfugiés ou ces gens qui venaient d'ailleurs, qui ne savaient pas se comporter, qui avaient un problème sexuel, qui avaient un problème avec les femmes... Bizarrement, depuis l'affaire Weinstein, ces gens-là, on ne les entend pas, quoi. On voit que... Parce que pour autant qu'on sache, enfin, pour autant que je sache, Hollywood n'est pas peuplé de réfugiés venant de Syrie ou d'Irak ou d'Afrique. Et on ne l'entend pas quand il y a... Enfin, quand on dit, par exemple, que dans les festivals, pour revenir à un sujet actuel et d'ici... qu'il y a effectivement du harcèlement qui existe, c'est pas forcément des personnes venant d'ailleurs, hein, qui sont les majoritaires dans les festivals. Donc il y a un féminisme qui est instrumentalisé. Donc il y a un féminisme qui, alors je dirais pas bon ou mauvais, mais il y a un féminisme qui n'est absolument pas sincère. Ce sont des gens qu'on voit jamais dans aucun combat et que tout à coup on a vu monter au créneau juste pour justifier leur islamophobie et leur racisme. Alors là, effectivement, il y a un mauvais féminisme. Pour le reste, il y a des féminismes qui ne s'entendent pas toujours entre eux, mais qui, comme je le disais, peuvent mener des combats communs. Et que je ne rejetterai donc pas, y compris le féminisme institutionnel avec lequel moi j'ai beaucoup de problèmes, parce que vraiment je ne m'y reconnais pas du tout, mais n'empêche qu'il a fait avancer certaines causes des femmes. Voilà, si j'ai répondu à ta question. Et alors, le rapport entre capitalisme et féminisme, c'est vraiment une question que je trouve vraiment importante. Alors, effectivement, il y a la marchandisation du corps des femmes qui est un des aspects du capitalisme, c'est vrai. Mais pour moi, il y a quelque chose d'autre, une chose à laquelle on ne pense pas et qu'on oublie parfois dans les combats anticapitalistes. C'est une chose qui, moi, me frappe beaucoup. Vous savez, il y a cette espèce de mythe de la journée des 8 heures, hein, avec les affiches qu'on voit, hein, de 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil, qui n'a jamais été la vie des femmes. Hein. On imagine qu'on travaille 8 heures, on rentre à la maison, comment on mange, on ne sait pas, on se repose, et puis on va dormir, et puis enfin on a 8 heures de loisirs, on se repose et on va travailler. On oublie complètement tout ce qui peut être soins aux enfants, tout ce qui peut être faire à manger, tout ce qui peut être nettoyé, qui est un travail de femme. Donc là, vraiment, dans les luttes anticapitalistes, enfin, même dans le, c'est dans le symbole de ce qu'est vraiment l'objectif qui est cette fameuse journée de 8 heures. On oublie complètement la moitié de la population. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et que dans les luttes anticapitalistes, ce qui me paraît fondamental, c'est de réintroduire la question de la reproduction. Donc les luttes anticapitalistes, quand elles sont basées sur des analyses marxistes, sont effectivement basées sur une analyse des rapports de production, mais qui oublie complètement les rapports de reproduction et le travail gratuit des femmes. Et on peut se dire que le capitalisme, il ne tiendrait pas 5 minutes si tout ce travail-là devait être payé. Parce que c'est pratique, le salaire de l'ouvrier, c'est juste le salaire pour son travail, mais on oublie complètement tout ce qui lui permet tout simplement d'aller travailler, d'être habillé, d'être propre, d'être nourri, et certains disent d'avoir des rapports sexuels, mais ça c'est encore un autre débat. Est-ce que ça fait partie du travail ou pas ? Enfin voilà, donc je crois que c'est vraiment... Oui, c'est vraiment pour foutre la merde, mais... C'est... c'est pour mériter mon mojito. Donc, donc c'est vrai, je crois que c'est vraiment un aspect qu'il ne faut pas oublier. Cela dit, tu as raison. Hein. Il y a aussi ce problème de marchandisation, mais je crois que c'est quelque chose qu'on voit plus. Mais ce travail de reproduction dans les luttes anticapitalistes et encore aujourd'hui dans les mouvements révolutionnaires, on a parfois encore tendance à l'oublier. Je laisse les autres répondre au reste.
Bon, alors ça peut être long. Quand est-ce que ça a merdé? En fait, ça a merdé depuis longtemps. Je crois que le... 5 minutes d'histoire quand même. Je crois que le 19e siècle est tout à fait passionnant parce que c'est l'explosion du capitalisme et de l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Et dans ce 19e siècle, on voit naître, à la fin du 19e siècle, le féminisme, le mot féminisme. Alors le mot féminisme, au début, est une insulte aux hommes plus ou moins efféminés, ou en tout cas qui ne vengeraient pas leur honneur quand ils ont été trompés. Hein, donc Alexandre Dumas fils dit ce sont des féministes. Et les féministes, les femmes qui se revendiquent d'une égalité entre hommes et femmes ou pour une émancipation des femmes, vont reprendre leurs mots à leur compte, hein, comme nègre, négritude, queer, et elles vont reprendre le mot féministe. Elles vont dire « Ah, c'est une insulte, nous sommes féministes ». C'est la fin du 19e siècle, et c'est au moment du capitalisme triomphant. Donc je crois que d'une manière ou d'une autre, le capitalisme va se nourrir du féminisme, et on peut encore en discuter aujourd'hui, hein, on en a parlé avec Lego tout à l'heure et les jouets pour enfants. Le gender marketing fait la fortune du capitalisme aujourd'hui, hein, avec les déos, quels qu'ils soient d'ailleurs, l'épilation, on le sait et vous le savez. Donc voilà, le gender marketing, il y a des bibles entières sur la question aujourd'hui. Je viens d'avoir en mémoire cette question-là, c'est vraiment passionnant, mais ça nourrit évidemment aussi et ça sauve peut-être à certains moments d'ailleurs certaines entreprises. Donc... c'est pas quelque chose de récent du tout. Donc 19e siècle, le capitalisme et le féminisme voient le jour, et ce premier féminisme qu'on taxe alors maintenant de libéral, de bourgeois, disait-on. Alors moi j'aime pas cette appellation parce que c'était des femmes. Alors oui, ok, elles étaient institutrices, elles pouvaient pas faire d'autre chose à l'époque, donc oui, profession libérale peut-être si vous voulez, et tout ce qu'elles demandaient c'est de pouvoir étudier et travailler, ce qu'elles ne pouvaient pas faire. Et donc, elles se sont battues pour des droits civils et politiques. Le droit de vote, pouvoir ouvrir un compte d'épargne, pouvoir aller en justice, etc., etc. Alors, évidemment, ça va faire hurler un autre féminisme, dit féminisme plus socialiste, puisque en compte d'épargne, elles n'en ont pas besoin, elles n'ont pas d'épargne, et elles n'ont aucune envie d'épargner, elles n'en voient pas, déjà survivre est compliqué. Et donc, vous avez là une différence, et on retrouve en Belgique, au début du XXe siècle, ce féminisme féministe, ce féminisme socialiste dit libéral ou chrétien d'ailleurs. Voilà. Alors on les oppose souvent. On le taxe de libéral. Souvent, c'était pouvoir avoir accès à l'école et pouvoir exercer un métier et pouvoir par la suite aller à l'université. Ok, on peut dire que c'est libéral, mais c'est quand même assez fondamental dans notre histoire également. Donc ça, c'est quand même important à souligner. Et encore pour revenir un tout petit peu sur l'histoire, quand ça a merdé, mais ça a merdé depuis qu'on essentialise le corps des femmes, depuis qu'on naturalise la femme. Et donc ça, c'est évidemment extrêmement important. Depuis longtemps, l'Église, mais au XIXe siècle, la science va le faire. La science va dire que elle va prouver que les femmes sont inférieures aux hommes. Hein, c'est quelque chose d'extrêmement important dans ce capitalisme triomphant et dans ce scientisme triomphant, comme elle va prouver au même moment que les Noirs sont moins intelligents que les Blancs. Enfin, c'est exactement au même moment, hein. Et on va peser les crânes des différentes races et on va peser les crânes des différents sexes, hein. C'est exactement au même moment et presque au même moment, un peu plus tôt, vous avez l'anticapitalisme qui vit dans ce contexte-là, qui est abreuvé de cela, et quelqu'un comme Proudhon, que j'imagine vous connaissez, hein, père de l'anarchisme, hein, la propriété privée, c'est le vol, hein, c'est quand même son slogan. Proudhon était le plus grand misogyne de la Terre. Proudhon a écrit un bouquin qui s'appelle « La pornocratie ou les temps modernes des femmes », où il dit qu'une femme intelligente ne peut être que moche, laide ou guenon. Hein. Et en gros, c'est mère ou pute. Il n'y a pas d'autre choix pour une femme. Alors vous allez me dire, c'est le problème de Proudhon, on s'en fout un peu. Peut-être. Le problème, c'est que tous les socialismes, et je dis bien tous les socialismes du 19e siècle, vont se nourrir de la pensée de Proudhon et ils vont prendre tout, hein, y compris cette pensée-là, profondément
misogyne, évidemment anti-féministe de Proudhon. Et donc c'est pour ça que même le socialisme belge dans ses prémices va être baigné par ses pensées profondément anti-féministes. Donc le mouvement anticapitaliste est presque par essence antiféministe à la base, ce qui va être un problème au cours du XXe siècle pour les femmes, pour des féministes qui vont aller dans ces partis pour un peu les faire bouger. Françoise Collin, pour revenir à elle, disait que le féminisme, c'était un regroupement sauvage de femmes, de tous les partis, un mouvement intermittent qui va, qui vient, et qui est venu très fort ces derniers temps, évidemment, avec le hashtag MeToo. On s'est rendu compte que les féministes et féminisme existaient et qui, j'espère, ont de grands jours devant eux.
Ok. Alors, par quoi commencer? Parce que c'est déjà une belle liste, en fait. Alors déjà, peut-être quel lien entre féminisme et capitalisme? Disons concrètement, l'exploitation des travailleurs et des travailleuses se fait de manière assez différente au quotidien et on peut voir des effets très clairs. Dans l'inégalité dans les salaires, dans la manière dans les pensions qui aussi vont être moins bonnes pour les femmes, etc. Quand on va voir le système de pension à points qui se prépare, par exemple, il y aura clairement des effets sur les femmes, notamment les femmes qui sont plus sujettes à avoir des contrats à mi-temps, des contrats plus précaires, des contrats flexibles. Donc ça, c'est un effet concret du capitalisme et du patriarcat qui se nourrissent, en fait. Enfin, le capitalisme qui se nourrit du patriarcat, clairement. On peut aussi parler d'écologie, parce qu'on n'en a pas vraiment encore parlé jusqu'ici, mais clairement, il y a une question écologique qui est importante à aborder, puisque les femmes sont les premières concernées aussi dans pas mal de pays en tant qu'ouvrières agricoles, en tant que personnes qui sont les premières à faire face à tout un tas de désastres écologiques, à tout un tas de pollutions, à tout un tas d'exploitations en fait, de la terre. Il y a aussi un mouvement qu'on appelle écoféminisme qui a tendance à faire le rapport entre l'exploitation de la terre, l'exploitation des ressources naturelles et l'exploitation des femmes, qui établit en fait qu'en gros il y a une même manière en fait d'agir dans les deux sens. Alors après on est d'accord ou pas, il faut voir un petit peu, il faut parfois peut-être un peu nuancer parce qu'il y en a aussi qui ont un côté un peu spirituel aussi, un peu essentialiste pour certaines, mais voilà, il y a vraiment quelque part des questions à se poser aussi sur l'exploitation agricole et donc il y a un effet clair du capitalisme. Ensuite, je vais peut-être revenir à certains trucs, j'ai pas les idées super en place. L'intersectionnalité. Attends, quoi ? Oui, mais en fait, je vais y venir en fait plutôt. On a surtout parlé en fait on a pu déjà établir des liens entre féminisme et lutte antiraciste, etc. On a déjà vu qu'il y a pas mal de choses qui sont liées à ce niveau-là. La manière de traiter les femmes et la manière de traiter les étrangers ou les immigrés, etc., va clairement avoir les mêmes types de dynamiques. Il me semble aussi intéressant de noter qu'il y a aussi les personnes LGBT qui subissent exactement le même genre de dynamique. Donc on a tendance à moins en parler, mais clairement, il y a une nécessité en fait, d'en arriver à un féminisme clairement intersectionnel qui prend en compte toutes ces formes de pression qui s'alimentent l'une l'autre, qui se combinent au quotidien. Et on ne choisit pas d'être un jour une femme, le lendemain on est, racisé, le surlendemain on est une personne LGBT. Ça, il faut pouvoir mettre tout ça en commun. Et travailler là-dessus. Donc, je pense que voilà. Ensuite, la place des hommes dans la lutte, ça me paraît être une question assez intéressante, puisqu'on a tendance à. Enfin, il y a une vieille image comme ça de la féministe qui ne supporte pas qu'il y ait un homme dans les parages et qui lutte finalement contre les hommes de manière générale. Il faut clairement supprimer ces idées-là. En fait, nous, à la gauche anticapitaliste et dans d'autres organisations, on a cette volonté de faire des espaces en non-mixité. Alors, l'utilité de cette non-mixité, en fait, c'est déjà de pouvoir parler de nos problèmes de femmes entre nous sans avoir un regard masculin extérieur qui va commencer à venir nous expliquer finalement ce que c'est le féminisme, comment on devrait percevoir en fait notre propre oppression, parce que finalement, on serait un peu trop bête pour le savoir. Et donc, clairement, en fait, la volonté derrière ces espaces non-mixtes, c'est vraiment de trouver un espace de partage, de réflexion, et de pouvoir aussi se renforcer en fait, dans nos idées de lutte, avant de pouvoir commencer à mettre ça en place, déjà au sein de nos organisations, mais aussi à l'extérieur. Et pour nous, c'est une étape extrêmement importante d'auto-organisation en fait, des femmes, pour arriver à faire une lutte un peu plus intéressante et un peu plus mobilisatrice, et un peu plus inclusive en fait quelque part qu'avec des hommes qui vont clairement venir systématiquement t'expliquer voilà c'est ça, non mais ça tu devrais plutôt faire ça, non mais ça je suis pas d'accord en fait, t'as pas vraiment bien compris ton oppression, etc. Et donc voilà, je pense que c'est à peu près tout.
Et voilà.
Oui, sur la place des hommes, il y a une chose que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a des hommes qui ne se définissent pas comme féministes, mais pro-féministes, avec justement cette volonté de dire clairement qu'ils soutiennent un mouvement, mais qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas au cœur de ce mouvement. Et je pense que nous, comme je dirais, comme moi en tout cas, pour ne pas parler au nom d'autres, hein, mais en tant que féministe blanche, je me sens un peu par rapport à l'afroféminisme, qui est un mouvement quand même qui est fort important. Moi, je me sens un peu dans la position des hommes par rapport au féminisme, c'est-à-dire que j'ai envie de le soutenir, bien sûr, mais qu'il faut tout le temps faire attention à le soutenir de ma position de femme blanche et de ne pas vouloir parler à sa place et de ne pas vouloir dire aux femmes noires voilà ce que vous devriez faire et quelles devraient être vos priorités. Et si leurs priorités sont autres que les miennes, eh ben voilà, d'accepter que ces priorités-là sont autres parce que tout simplement je ne vis pas cette oppression-là. Et que les hommes devraient aussi comprendre ben voilà, qu'ils ne vivent pas la même oppression que les femmes, quelle que soit leur bonne volonté pour le comprendre. Donc ils peuvent soutenir, bien sûr, mais ils doivent respecter la non-mixité dont tu parlais, et ils doivent respecter le fait que les priorités et l'agenda, eh bien, ce sont les femmes qui doivent le déterminer. Et alors l'autre chose, je voulais répondre pour la culture, hein, parce qu'on n'en a pas parlé, je vais revenir avec Françoise Collin, bon, c'est Françoise Collin, c'est un peu mon idole, là, hein, à part Simone de Beauvoir, mais bon. C'est que elle a dit quelque chose qui a été assez choquant. Elle a dit « Toute œuvre de femme est féministe », alors qu'il y a certaines artistes femmes qui ne veulent surtout pas être définies comme féministes parce qu'elles ont l'impression que ça va les mettre dans une case. Et donc, il y a même une artiste dont j'ai oublié le nom qui a dit que les artistes femmes ont autant besoin de féminisme que d'une balle dans le pied. mais si elle a dit ça, c'est parce qu'elle estimait que ce qui était important, c'est qu'on a vraiment... Le monde s'est construit avec le regard des hommes. Et que la vision qu'on a, c'est le regard que les hommes ont porté sur le monde et sur les gens, les hommes blancs, oui. Mais même quand tu vois l'art africain, ben, y a des expos d'art africain, il n'y a pas une seule femme. Elle venait justement, elle sortait d'une exposition d'art burkinabé où il n'y avait pas une seule femme représentée. Donc, il y a effectivement, le monde est vu par les dominants, en fait. Hein. Et donc, que toute femme qui s'exprime, que toute femme qui... intervient dans le monde culturel qui aide quand même à façonner notre façon de voir le monde et de voir les gens, c'était quelque chose qui était féministe, qu'elle se définisse comme féministe ou pas. Voilà, je peux juste répondre à ça.
Sur l'objectivation des femmes, est-ce que quelqu'un voudrait répondre ? Je sais pas si...
Pour le féminisme.
Donc c'est question.
Ma question, c'était quelle était la place du féminisme masculin, en fait. Enfin, un homme qui a sa part de féminité et je pense qui, bah, dans notre société actuelle, est plus ou moins accepté. Et quelle était la place de ce féminisme masculin dans le féminisme pour lequel vous vous battez quotidiennement, quoi. Et s'il avait sa place aussi, je sais pas.
Bah pour nous, ce serait plutôt une vision en tant qu'allié, en fait. C'est-à-dire que la part de féminité, c'est bien, mais disons que la forme d'oppression ne sera pas comprise de la même manière. Et donc, pour nous, en fait, ce qui est important, c'est de se sentir soutenu, clairement, dans nos luttes. Et être féministe au masculin, ce serait vraiment, quelque part, être un bon allié, pouvoir déjà, premièrement, savoir faire un pas de côté et écouter déjà ce que les femmes ont à dire sur leur lutte. Et donc, voilà, je pense que ce serait vraiment... Pour moi, c'est essentiel. Après, ça peut être marcher, faire des manifestations ensemble, etc. Mais aussi respecter d'abord ces moments de non-mixité aussi. Et aussi tous ces moments en mixité dont on parle un petit peu moins. Parce que je sais que la non-mixité a fait beaucoup de débats aussi à pas mal de reprises. Il faut savoir déjà que ce n'est pas un concept nouveau. C'est déjà apparu aux États-Unis dans la lutte pour les droits civiques par les femmes noires américaines qui se sont rendues compte à un moment qu'elles n'avaient pas forcément le même espace que les hommes pour s'exprimer dans leurs revendications. Et donc, elles ont déjà commencé à s'auto-organiser, à faire des mouvements, enfin des réunions non mixtes. Et donc, c'est pas nouveau, mais en plus, c'est clair qu'il faut vraiment trouver un moyen de combiner nos forces tout en ayant gardé une forme d'auto-organisation, une forme de respect aussi de la parole qui est déjà donnée aux femmes qui veulent prendre la parole. Donc, je pense que c'est plutôt à ce niveau-là que ça se situe, c'est-à-dire être un bon allié. Apporter sa force quelque part de mobilisation, etc., mais savoir faire un pas de côté en tout cas.
étonnant quand on parle de non-mixité, c'est que ça continue à choquer. Alors on dit, enfin, l'origine évidemment est déjà très ancienne, et enfin, on en rigole quelquefois, mais si vous faites un débat sur le féminisme et que vous voulez du monde, vous devez dire qu'il est non mixte. Là, tout à coup, tous les réseaux sociaux de la Terre, tous les hommes veulent participer à votre conférence, alors que normalement, il y en a quasi pas. Et, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de fascinant, alors qu'il y a plein de lieux non mixtes masculins qui ne sont pas revendiqués comme tels, mais qui sont évidents. Hein. On parlait des conseils d'administration, mais on peut en parler de plein d'autres. Et ça ne choque personne. Et ici, revendiquer théoriquement cette non-mixité est quelque chose, je trouve, d'extrêmement passionnant, intéressant. Et la notion d'allié, de faire en chemin, enfin, des chemins ensemble, en chemin de route, des compagnons de lutte, je trouve ça passionnant, comme avec la communauté LGBT, comme avec les personnes racisées, comme avec les personnes transgenres, etc. Je crois qu'il y a des chemins et des compagnons de route, et des compagnes d'ailleurs de route.
Voilà, il nous reste 3 minutes et une dernière question.
C'est pas une question, c'est une petite information, comme ça a l'air d'intéresser de nombreuses personnes. Au Village des Possibles, au stand Péton Festival, demain sera organisé un atelier à 16h sur les alliés, donc pour discuter des personnes comme les hommes, etc., comment elles veulent s'impliquer dans la lutte des femmes, comment est-ce que c'est possible, etc. Donc voilà, ici à côté au Village des Possibles.
Oui, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait faire un message.
Non, je voulais aussi faire une information sur le Village Cible. Comme on parlait de féminisme et anticapitaliste, on a un groupe qui s'appelle le collectif 8 mars qui essaye de lancer une grève des femmes le 8 mars 2019. Et donc j'imagine que ça permet notamment de parler de questions de travail dont vous avez sûrement parlé juste avant. On est juste là, c'est à 50 mètres, n'hésitez pas à passer. On vous présentera un peu plus qui on est. Voilà. Et le prochain rendez-vous, c'est le 7 octobre. On invite à une grande assemblée générale de toutes les femmes qui sont intéressées à participer à ça, à Bruxelles, un dimanche après-midi. Voilà. Je n'ai pas de flyers à vous donner, mais n'hésitez pas à passer au stand, donner votre contact, venir voir quelle est la page Facebook, quel est le mail, voilà, et venir discuter avec nous.
Voilà, super, merci. On va donner une dernière fois la parole aux intervenantes et puis on clôturera ici. Malheureusement, une heure, c'est un peu peu pour parler de sujets aussi importants que et le capitalisme et le féminisme.
Alors, une dernière question, justement, et merci de répondre brièvement. Le capitalisme se porte bien. On essaye de lutter contre, mais a priori, c'est un peu difficile d'aller contre lui. Le mouvement féministe est au-devant de l'actualité, comme on l'a déjà dit plusieurs fois depuis... de longs mois. Est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste ou prudemment optimiste ou pessimiste par rapport à l'évolution du droit des femmes et de la lutte féminine dans les mois et années qui viennent, ou que c'est quelque chose qui est un épiphénomène?
Bon, alors très vite, moi je suis très très optimiste. Voilà, mais c'est peut-être... je prendrai le mojito après, mais c'est parce qu'il y a quelques années, enfin, ça fait des années qu'on se bat, y compris dans le monde académique, pour plein de choses. Et puis quand, enfin, je suis venu souvent ici à ce festival, et puis quand on arrive ici et qu'on voit sur l'harcèlement tout ce qui a été fait, quand on voit le collectif 8 mars, on y est passé tout à l'heure, il y a 4-5 ans, c'était inimaginable. Hashtag MeToo, hein, Geneviève Fraisse disait, il y a 10 ans, j'ai dit que le féminisme était un mot maudit et que plus jamais les femmes vont pouvoir le porter, les femmes ou les hommes d'ailleurs, vont pouvoir le porter et le revendiquer, hein, cette fierté. Hein, on parle toujours de la fierté LGBT, mais la fierté d'être féministe, elle croyait que c'était un mot maudit et elle dit aujourd'hui, je me suis peut-être plantée avec le hashtag MeToo. Et donc, je suis assez d'accord avec elle. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une fierté féministe. Enfin, en débat il y a quelques années sur féminisme et anticapitalisme, avec la chaleur qu'il fait, je ne crois pas qu'on aurait été aussi nombreux et nombreuses. Donc je crois qu'il y a en tout cas des nouvelles générations qui prennent conscience qu'il faut enseigner, qu'il faut éduquer, qu'il faut transmettre, et que par ce mouvement néo-néo-féministe permettra sans doute, à mon avis, de lutter plus efficacement contre le capitalisme.
Voilà une très belle... Voilà. Voilà une très belle conclusion. Effectivement, moi, le fait d'arriver ici, enfin, je trouve ça génial. J'ai un peu l'impression de retrouver mes années 70. Il y a juste une chose, c'est que si on parle aussi d'anticapitalisme, c'est que le système capitaliste a une capacité de récupération qui est quelque chose d'incroyable, et je crois que ça fait sa force. Alors, il y a plein de luttes qu'il peut récupérer, et il peut se développer avec ces luttes-là et réussir, grâce à ça, à faire encore plus de fric. Et ça, c'est vraiment quelque chose à quoi je pense qu'il faut être très, très vigilante, même si le féminisme, effectivement, revient au devant de l'actualité, à ne pas se laisser récupérer, et c'est pas facile.
Alors moi, je rejoindrais plutôt le côté extrêmement optimiste. Je pense qu'aujourd'hui, on voit quand même une forme de nouvelle vague féministe qui se déclenche. Et on parle toujours, on est un peu désespéré ici en Occident, parfois par rapport à certains faits. Mais il faut aller voir aussi ailleurs, en Argentine, au Chili, en Espagne, avec la grève qui a eu lieu le 8 mars passé. Et c'est quand même extrêmement intéressant de voir à quel point des millions de femmes se sont mobilisées à ce niveau-là. On prouvait aussi qu'on pouvait agir clairement sur nos sociétés, montrer à quel point notre travail est important, à quel point le travail qui n'est pas rémunéré est important, à quel point un pays comme l'Espagne peut être bloqué pendant toute une journée parce qu'on ne travaille pas, parce qu'on a décidé de ne pas aller chercher les gosses à l'école, parce qu'on a décidé de prendre vraiment du temps pour nous. Et donc je pense que la grève qui va s'organiser le 8 mars prochain, ben j'espère qu'on sera nombreuses et qu'on va pouvoir montrer aussi à notre niveau en Belgique, en Occident, qu'on va pouvoir aller plus loin et qu'en luttant, on va pouvoir obtenir une reconnaissance de notre genre et de notre travail au quotidien. Voilà.
Merci à nos trois invités et merci à vous d'y avoir participé. On est tenu par le timing parce qu'il y a un atelier trans pour les nuls. Donc si vous voulez rester, l'atelier a lieu tout de suite. Et sinon, si vous voulez bien vite retrouver l'air frais, et les intervenantes vont sûrement boire une bière ou un mojito, si j'ai bien compris, juste dehors, à l'extérieur de l'espace. Et n'hésitez pas à aller visiter le stand du musée du capitalisme au village des possibles. Merci.